Bonsoir Fabienne Synthèse.
Mais bonsoir Alex et les amis. À demain. Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 15 février avec le journal de Sébastien Logeni. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence ce soir par des insultes.
Les insultes proférées en privé par un policier parisien. Il traite de pute à plusieurs reprises une femme qui venait de porter plainte pour agression sexuelle. Le préfet de police a saisi l'IGPN et demandé la suspension du fonctionnaire. Les détails dans un instant. La Russie s'est-elle vraiment engagée dans une désescalade? Les signes positifs se multiplient depuis ce matin. Qu'en pensent les expatriés français qui vivent à Kiev? Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux à suivre. À suivre également les contradictions de la stratégie sanitaire du gouvernement, partagée entre optimisme et restrictions. Les locataires HLM durement frappés par la hausse des prix du gaz. Et puis le nouvel album réussi du musicien Jacques, pour terminer, validé par le service culture d'Inter.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir en Palestine, où s'est passé presque inaperçu. Mahmoud Abbas a fait des nominations qui confortent son pouvoir. Lui, le leader de l'autorité palestinienne que 80% des Palestiniens souhaitent voir partir. Pourquoi ce statu quo? On y vient avec notre premier invité. Puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. Chaussez donc votre masque de réalité virtuelle. Sébastien, je vous emmène dans le métaverse. Il paraît que c'est l'avenir d'Internet, de nous faire évoluer avec notre avatar dans des univers parallèles en 3D. Il paraît même qu'une économie s'y développe. Vous êtes perdu, ça tombe bien. Moi aussi, je vous le dis tout net. Toutes les questions que vous avez envie de poser sur cette affaire de métaverse au 01 45 24 7000.
France Inter.
Quand un policier donc traite de pute une femme qui vient porter plainte pour agression sexuelle.
C'est une histoire qui pose à nouveau la question de l'accueil des femmes victimes de violences dans les commissariats. Une histoire révélée par nos confrères de Mediapart. Celle d'une enseignante de 34 ans, victime d'une agression sexuelle il y a une dizaine de jours, dans le quartier latin à Paris. Elle décide de se rendre au commissariat des 5e et 6e arrondissements. Elle dépose plainte. Mais le lendemain, elle reçoit sur son répondeur le message d'un policier du commissariat. La suite, Emmanuel Leclerc, c'est vous qui nous l'a raconté.
Oui, un agent du commissariat des 5e et 6e arrondissements de la capitale qui laisse un message en l'absence de la victime à son domicile, en lui donnant déjà un mauvais numéro à rappeler. Puis, il raccroche mal son combiné et là, on l'entend commenter à ses collègues cette plainte qu'il a visiblement bien du mal à décrypter, sans savoir s'il en veut à son ou sa collègue qui a pris la plainte ou à la victime.
Je crois un groupe, putain, mais la plainte est incompréhensible. Je crois un groupe de personnes pour me prêter attention quand je sens des doigts caresser dans la gueule, d'avant en arrière. Mais à quel moment on ne sait même pas de qui elle parle. Ça n'a pas de sens en fait.
En réalité, c'est bien la victime que le policier pense encore éméchée, qui est bien la cible. Une jeune femme qui assure avoir été touchée sur ses parties génitales en pleine rue à la sortie d'un bar, mais qui refuse d'être confrontée à son agresseur. La sentence est immédiate.
C'est vraiment une pute, hein, comme par hasard. Putain. Elle refuse la confronter en plus, la pute. Comme par hasard, en fait, c'était juste pour lui casser les couilles. Hein. Je suis sûr, putain, c'est grosse pute.
La victime est allée faire écouter l'enregistrement au commissariat. L'accueil atterré, les policiers ont promis aussitôt de faire remonter l'histoire. Après la diffusion de l'enregistrement par Mediapart à la mi-journée, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a fait savoir dans un communiqué qu'il avait bien saisi l'IGPN avec demande de suspension immédiate à titre conservatoire de l'agent concerné pour ses propos qualifiés d'inadmissible.
Le récit d'Emmanuel Leclerc du service police-justice. Le journaliste de BFM TV Jean-Jacques Bourdin, suspendu de l'antenne, continue de contester fermement toute agression sexuelle. Aujourd'hui, pour la première fois, celle qui l'accuse parle à visage découvert dans la presse. La journaliste Fanny Agostini rapporte des faits s'étant déroulés en Corse en 2013. Nouveau témoignage également à retrouver sur le site de franceinter.fr.
Les signes de détente se multiplient dans la crise ukrainienne.
Il y a d'abord eu ce matin, cet ordre donné par le Kremlin pour faire rentrer dans leur garnison des unités de l'armée russe positionnées autour de la frontière ukrainienne. Difficile toutefois à cette heure de confirmer de sources indépendantes la réalité de ce retrait. Il y a eu ensuite une série de déclarations en apparence apaisante de Vladimir Poutine, le président russe qui dit bien sûr ne pas vouloir d'une guerre et entend continuer le travail diplomatique avec l'Occident. Les Occidentaux, justement en face, restent prudents. Les paroles, c'est bien, nous attendons les actes, à lancer pour pour sa part Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Bref, le dialogue se poursuit, mais la situation reste encore très fragile. Alors comment les expatriés français vivent-ils ce moment? Aucune panique en ville à Kiev. Un flegme partagé par la communauté française. Reportage sur place de l'un de nos envoyés spéciaux, Benjamin Ely.
Bonjour.
Ça fait bizarre d'entendre bonjour à Kiev.
Bonjour.
Sinon, au quotidien, il parle plutôt russe. Il essaye d'améliorer son ukrainien. Cela fait presque 30 ans que Joël Frantz vit à Kiev. Le pays abrite environ un millier de Français. Ici, il a ouvert son restaurant.
Gorchitsa, ce qui veut dire moutarde.
Je vous pose la question franchement, est-ce que vous avez peur?
Je vais vous répondre franchement, non, pas trop. Premièrement, pas paniquer, et puis j'habite ici, j'ai ma femme qui est ici, ses parents sont ici, ma vie est ici. Tout ce truc, ça a été un peu trop monté en mayonnaise.
Alors là, il y a un autre client dans le restaurant, il est français lui aussi, il s'appelle Ange, il est agronome, installé depuis 2 ans en Ukraine, il a 50 ans.
Je vais rester, c'est les amis, les copains, les... Ah, ils disent que c'est quand tu rentres, c'est la guerre, c'est... Je dis, oh là là, calme-toi, uspakoïsan, aruskam, en russe.
Ça veut dire calme-toi.
Oui, voilà. Les gens vivent au jour le jour ici, ils sont plus philosophes que nous. Mais ils ont une histoire, vous savez, derrière eux. Elle est dure.
Donc ils sont endurants.
Ouais, adviendra ce qui adviendra.
Jusqu'à nouvel ordre, les ressortissants français en Ukraine ne sont pas invités à quitter le territoire, mais de sources diplomatiques, si nécessaire, un plan d'évacuation peut être déclenché, évacuation notamment par la route en cas de fermeture de l'espace aérien.
Reportage à Kiev de Benjamin Ely. En bref, encore à l'étranger, la France s'apprête-t-elle à quitter le Mali? Question brûlante, alors que le président français Emmanuel Macron doit réunir demain soir un mini-sommet décisif avec plusieurs dirigeants africains et européens pour discuter de la présence militaire au Sahel. Des annonces seront faites rapidement. On revient en France avec cette question. La stratégie sanitaire du gouvernement est-elle encore lisible? Le gouvernement qui d'un côté plaide l'optimisme et de l'autre continue d'imposer des restrictions sanitaires. Exemple, demain, réouverture des boîtes de nuit, retour de la consommation debout dans les bars, retour de la restauration à bord dans les TGV, la fin du masque en intérieur le 28 février dans les lieux clos soumis au pass vaccinal. Voilà pour les perspectives réjouissantes. Et puis dans le même temps, durcissement du pass vaccinal depuis aujourd'hui avec 4 millions de Français qui perdent leur sésame. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
On nage en plein paradoxe.
C'est le risque en tout cas pour l'exécutif, celui d'envoyer un message en apparence contradictoire. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal lui-même évoquait la semaine dernière une possible suppression du pass fin mars, début avril. Et aujourd'hui, nous sommes plus optimistes que jamais, dit-il à la sortie du Conseil des ministres.
L'épidémie est en net repli et chaque jour qui passe... le confirme. Grâce à la vaccination, grâce au pass, grâce aux mesures qui ont été prises au bon moment, grâce à notre vigilance collective, nous sommes en train de faire reculer l'épidémie.
Dans ces conditions, comment justifier ce durcissement du pass alors que certains qui risquent de le perdre misent justement sur sa levée prochaine pour ne pas effectuer leur rappel? On voit clairement que le rythme des injections s'essouffle. Et quand Gabriel Attal continue d'appeler à la vaccination, eh bien c'est sur un ton beaucoup moins pressant qu'il y a encore quelques semaines.
C'est fort aussi de cette couverture vaccinale importante qu'on a pu protéger les Français, qu'on a pu éviter d'avoir à prendre des mesures très lourdes cet hiver et qu'on peut avancer avec confiance. Évidemment qu'on appelle toujours et qu'on appellera toujours les Français à se faire vacciner.
En réalité, un conseiller du gouvernement le reconnaît. Il est désormais très compliqué d'aller chercher ceux qui hésitent à faire leur rappel ou qui refusent mordicus le vaccin, mais trop tôt pour lâcher le pass, présenté comme la condition à la levée des restrictions et comme un bouclier surtout en cas de nouveaux variants.
Simon Le Baron, quand la pollution tue plus que le Covid, conclusion d'un rapport de l'ONU, la contamination par les pesticides, les plastiques, les déchets électroniques est à l'origine d'au moins 9 millions de décès prématurés par an. La pandémie de coronavirus, elle a fait près de 6 millions de morts. Ils sont les grands oubliés du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Les locataires HLM et des copropriétés, parmi les ménages les plus modestes, subissent en réalité de plein fouet la flambée des prix du gaz, car ils dépendent d'un chauffage collectif qui ne bénéficie pas du gel des tarifs mis en place par l'État. Pour eux, le bouclier imaginé par le gouvernement en septembre ne fonctionne pas, Guillaume Gaven.
Ce bouclier, c'est le gel provisoire des tarifs réglementés du gaz, des tarifs réservés aux particuliers. Parce que depuis 2016, les professionnels et les collectivités doivent obligatoirement souscrire un abonnement à des offres de marché qui ont donc pris de plein fouet la flambée des cours. Résultat, les factures des copropriétés des locataires ont flambé, selon le président de l'association de consommateurs CLCV, Jean-Yves Manot.
C'est 800 euros par an pour 4 personnes et un 4 pièces. Et c'est le chauffage et l'eau chaude. Nous assistons avec des prix d'eau chaude parfois dans certains ensembles immobiliers où on arrive à payer le mètre cube d'eau chaude à 19 euros le mètre cube, avant qu'il était à 7 euros. Donc, se doucher à l'eau chaude, ça devient un privilège, et se chauffer correctement devient un luxe.
Combien de ménages sont concernés? Comment corriger la situation? Au ministère du Logement, on se montre assez embarrassé. Aucun chiffre ne sera avancé avant de recevoir un bilan de situation plus précis, dit-on, même si on sait que près de 5 millions d'appartements en France bénéficient du chauffage collectif, dont 2 millions de HLM. Quant à un éventuel soutien aux ménages, on explique que le sujet est pris très au sérieux, que plusieurs pistes sont envisagées, sans en dire plus pour le moment.
Guillaume Gaven, le Bordeaux, le Champagne et le Cognac retrouvent le sourire. Nouveau record pour les ventes de vins et de spiritueux français à l'étranger. Hausse des exportations de 28% en 2021. 15 milliards d'euros de ventes au total.
Deuxième journée d'audience au procès de l'assassinat du père Hamel.
Le père Hamel tué en pleine messe à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016. Trois membres de l'entourage des terroristes comparaissent depuis hier devant la cour d'assises spéciale à Paris. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Après l'examen de la personnalité des accusés, les magistrats se sont penchés aujourd'hui sur le déroulement de l'attentat lui-même avec le récit d'un policier de la sous-direction antiterroriste.
À la mi-journée, le président prévient « Cet après-midi, nous allons voir des images difficiles, très difficiles. » Il conseille aux parties civiles de réfléchir avant de s'y confronter, puis renonce finalement à diffuser les photos du corps de Jacques Hamel, le prêtre assassiné. Le récit détaillé de l'enquêteur laisse entrevoir à lui seul la froideur des assaillants. 9 plaies ont été relevées sur la victime au niveau de la gorge, de la tête, des coups de couteau, d'une violence inouïe, souligne le policier qui note une véritable détermination de la part du terroriste Abdelmalik Petitjean face à un homme de 85 ans qui cherche à l'éloigner à coups de pied. Roselyne Hamel, la sœur de la victime, écoute, visage fermé. Le président note un caractère sacrificiel chez les terroristes. Il laisse une religieuse donner l'alerte, s'agace du temps que mettent les forces de l'ordre à intervenir et sortent de l'église munie de faux explosifs avant d'être tués par la police. Il est 10h40, l'attaque a duré 1h15. Le corps du prêtre est retrouvé derrière l'autel près d'une statue renversée. Sacrificiel, certes, note un avocat de partie civile, mais ils ont pris soin de tuer avant.
Ariane Grissel en direct du Palais de Justice de Paris. Une nouvelle victime dans le terrible incendie hier de Saint-Laurent de la Salanque près de Perpignan. 8 morts au total. L'hypothèse criminelle est envisagée désormais par les enquêteurs.
Et puis Sébastien, on termine avec le nouvel album d'une figure montante de l'électro et de la chanson française.
Et il porte la tonsure et un nom on ne peut plus vintage. J'ai nommé Jacques. Le musicien est de retour avec l'importance du vide. Ce grand collectionneur de sons a décidé de revenir à un format plus classique. Des chansons écoutées et approuvées par Mathieu Culeron.
Mon absence est un mirage.
Avec sa fausse calvitie et son côté savant fou, le musicien Jacques ne passe pas inaperçu. Exilé au Maroc, il revient en France pour sortir cet album au format chanson, lui d'ordinaire plus habitué aux expérimentations.
Moi, je refusais le fait de faire un album parce que je trouvais que le format était un peu obsolète. Et en fait, ça a débloqué en moi un espèce de délire de générosité. Où avant, je me disais, ah ouais, faire de la pop, c'est un truc commercial. Et là, je me suis dit, en fait, faire de la pop, c'est juste genre aimer les gens, en fait. J'hallucine d'avoir fait cet album, j'avoue. Et je suis en mode, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Réfléchis dans tous les miroirs, la flèche de l'histoire, zigzag dans l'espoir d'accéder au mystère.
Pour ce disque, l'importance du vide, Jacques fait l'apologie des petits moments de rien, tout en prenant des cours de synthé sur internet.
Bah déjà, je me suis intéressé au synthé pour la première fois, parce qu'avant j'étais hyper mauvais en synthé, c'est pour ça que je faisais de la musique avec des objets. Donc là, je suis devenu un crack en synthèse à modélisation de fréquence. Donc c'est une synthèse bien particulière qui permet d'imiter justement les sons de métal, les sons de plastique, les sons de bois.
C'est comme une phrase qui parle de tout, comme un gruyère avec les trous.
Jacques se met à la pop et ça lui va bien. Faussement naïf, ce dernier album est à la fois intime et universel. Un disque optimiste, hors du temps présent.
Quand on me demande ce que je fais dans ma vie, je me le demande aussi.
L'importance du vide, le nouvel album pop de Jacques, validé par les oreilles de Mathieu Culeron.
Eh ben formidable, merci beaucoup Sébastien Eugénie, à tout de suite, bien sûr. Dans Un jour dans le monde, vous allez faire réapparaître pour nous un village espagnol englouti par les eaux, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ce soir, on parle de Palestine et surtout de l'inamovible Mahmoud Abbas. Nous serons aussi à Kaboul pour marquer les 6 mois du retour des talibans. Et puis le téléphone sonne. Je vous le remets dans l'oreille, je vous emmène dans le métaverse ce soir. Dans le quoi? Eh ben justement, c'est pour ça qu'on en parle. Qu'est-ce que c'est que cet univers en 3D dont on parle de plus en plus, surtout Facebook qui en fait son avenir, cet univers parallèle dans lequel évolueraient nos avatars, des petits nous numériques qui pourront à terme vivre dans des maisons virtuelles, aller dans des magasins virtuels mais payer avec du vrai argent. Qu'est-ce qu'on nous prépare? Qu'est-ce que c'est que ce futur? Est-ce que c'est un progrès qui vous fascine ou est-ce que tout ça vous terrifie? Ça se passe au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Élodie Calac, bonsoir. Journée pluvieuse demain.
Oui, bonsoir à tous. En effet, sur la plupart des régions, demain, ce sera couvert avec des pluies. Alors, plus marquées le matin entre le sud-ouest, le massif central, Rhône-Alpes et le Grand Est. Il neigera en montagne vers 800 mètres sur le nord des Alpes le matin et plutôt vers 1800 mètres l'après-midi. Le vent sera également de la partie jusqu'à 60 km à l'heure. Il se renforcera près de la Manche pour atteindre 90 km à l'heure et même 100 la nuit suivante sur le Nord-Pas-de-Calais.
Et puis ce sera sec en Méditerranée.
Et oui, et même bien ensoleillé sur la région PACA, sur la Corse. Le vent soufflera jusqu'à 50 à 70 km à l'heure et les températures, elles seront en hausse, plutôt douces, 2 à 11 degrés d'est en ouest demain matin et l'après-midi, il fera souvent 10 à 15 degrés jusqu'à 18 pour le sud-est.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.